de Paul Bourget et surtout de son livre Les Disciples. Monsieur Doyer, c'est un philosophe. Il appartient au collège de philosophie. Il aime la philosophie. Moi, je dirais que c'est un amoureux de la philosophie. Il a écrit dans des journaux, dans des revues spécialisées. Et tout ça, certainement, ça va faire un livre que je souhaite qu'il publie très prochainement. Monsieur Rechvarg, il est professeur, il est enseignant. Monsieur Doyer aussi, il est professeur de philosophie à l'école normale de Cergy-Pontoise. Et Monsieur Rechvarg, il est aussi professeur à l'école normale instituteur de la Saint-Saint-Denis. Mais ce n'est pas la philosophie, c'est la science naturelle. Mais il y a un lien entre les deux, parce que Monsieur Rechvarg, il prépare des séminaires au collège de philosophie, d'où je pense l'amitié. Il a publié des livres, déjà Monsieur Rechvarg, sur l'histoire de la biologie. Et il est ce soir comme comédien. Et en ce moment même, il présente, il a préparé un spectacle qui s'appelle « Déficience ». Et pour cet spectacle, il est l'auteur, il est le metteur en scène, et il est le comédien, il est l'acteur aussi, tout seul pendant une heure et demie sur scène. La semaine dernière, il était à Orléans, d'ici quelques temps, il sera dans la banlieue tout près de Paris. J'espère que nous pourrons le voir.
Je vous remercie. Bon, j'ai donc choisi de présenter Le Disciple de Paul Bourget, qui est un ouvrage paru en 1889 et qui figure, selon la règle du jeu, au catalogue de la Bibliothèque des Amis de l'Instruction, où il est entré donc en 1913. Et je voudrais, en guise d'introduction, marquer un certain nombre d'hésitations sur le choix consistant à présenter ce livre et à le présenter ici. Des hésitations qui en même temps nous feraient entrer dans le livre lui-même. À savoir que quand on présente un livre dans une soirée de lecture, on renoue avec une volonté de lire, et on renoue en particulier avec une volonté de lire dont la bibliothèque qui est ici est un témoin, et un témoin tout à fait particulier. Et donc, en présentant ce livre dans un lieu habité par une volonté de lire, on est amené plus ou moins à recommander la lecture de ce livre. Et c'est toute l'hésitation qu'on est obligé d'avoir par rapport à un livre comme celui-ci, Le Disciple de Paul Bourget, à savoir conseiller de lire ce livre n'est pas chose facile à faire, pour des raisons que je vais essayer de développer. C'est-à-dire que c'est, si on regarde de près, c'est inscrire un livre au programme de lecture éventuellement de quelqu'un. C'est même, dans la formule qui est retenue ce soir, l'inscrire immédiatement à un programme de lecture par l'association qui va se faire immédiatement entre la présentation que je commence et les lectures qui auront lieu de la part donc de Daniel Rechvarg. C'est donc prendre la responsabilité de faire de ce livre, Le Disciple de Paul Bourget, un livre qu'il y aurait à lire. Et la question qui me vient d'abord est que ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose qu'écrire et donner à lire. C'est pas tout à fait séparable, certainement, d'écrire d'un côté et de donner à lire de l'autre. Et que peut-être donc celui qui écrit un livre n'échappe pas tout à fait au fait qu'il donne à lire quelque chose à quelqu'un. Mais celui qui donne forme écrite à quelque chose qui est en lui, quelque chose qui est de lui, donc fait peut-être à son corps défendant plus qu'écrire. Donc il fait inévitablement un programme de lecture pour quelqu'un, du moins dans le cadre qui est le nôtre. Ici, la question est tranchée. Ce livre qui a été écrit est donné à lire, c'est-à-dire que nous sommes entièrement sur ce deuxième versant d'un programme de lecture. C'est-à-dire que nous faisons du livre et nous prenons le livre comme un livre à lire, Et donc, si on reprend par exemple l'expression latine, on fait de ce livre une légende, quelque chose qui est à lire. Bon, et c'est comme ça que les livres passent à la postérité, c'est-à-dire justement en développant ce qui est peut-être séparable, mais qui ici ne peut pas être séparé, donc cet écart entre celui qui écrit quelque chose et le fait que cet écrit devient quelque chose à lire, une légende. Et donc c'est ainsi qu'un livre devient plus que quelque chose d'écrit, il devient quelque chose qui passe à la postérité. Et d'abord, tout simplement, donc, parce qu'un livre est éventuellement réédité, donc effectivement rendu accessible à des lectures. Un livre est mis au catalogue, il est mis à plusieurs catalogues. Et si je regarde Le Disciple de Paul Bourget, donc cela a été fait, et cela continue à être fait. Ce sur quoi je m'interroge, c'est en quoi je continue moi-même à le faire. En quoi est-ce que ça a été fait? C'est-à-dire qu'il y a eu les éditions du vivant de l'auteur, jusqu'au recueil de ses œuvres complètes en 1900. En 1910, c'est devenu un petit volume de la collection Nelson, dont vous savez tous que c'était une collection extrêmement populaire, et donc qui en faisait précisément un livre à lire. Être édité dans la collection Nelson, c'est être non seulement un livre écrit par quelqu'un, mais c'est bien être inscrit dans une postérité, dans un programme de lecture qui s'adresse à une postérité. Et en 1954, si je passe de nombreuses éditions, en particulier des éditions illustrées pour les bibliophiles, mais si je continue à regarder ce qu'on peut considérer du point de vue d'un livre qui passe à la postérité comme programme de lecture obligatoire, ou en tout cas recommandé, je note qu'en 1954, Le Disciple est réédité dans la collection des classiques Larousse, et il est paru en 1987 dans la collection du livre de poche. Si, justement, on maintient une certaine sobriété aux mots, on peut dire que Le Disciple de Paul Bourget est donc devenu un livre légendaire, à savoir un livre qui est donné à lire par-delà des générations, de génération en génération, génération d'écrivains, d'éditeurs et de lecteurs. Il est donc devenu un livre qui parvient à saisir l'attention d'un lecteur par-dessus la situation d'écriture dans laquelle il a été écrit. Un livre donc qui se tient en réserve pour des lecteurs à venir. Et c'est bien en cela donc qu'il est un livre devenu lecture programmée, lecture qui précède le lecteur à venir, il est là avant ses lecteurs, et donc on est bien complètement sur l'autre versant que j'essayais de décrire, c'est-à-dire le versant ou du programme de lecture. C'était la question que je voulais donc inauguralement poser ici, prendre la responsabilité de recommander, de présenter Le Disciple de Paul Bourget, c'est donc prendre une responsabilité concernant d'abord quelqu'un à qui on donne à lire, et d'autre part, c'est prendre une responsabilité plus étendue, c'est-à-dire qui se continue évidemment à travers moi et à travers cette soirée, mais aussi à travers, bien entendu, de nombreux autres réseaux, mais donc prendre la responsabilité de faire de ce livre un classique. Et donc une responsabilité qui, du fait de cette légende, va s'adresser au-delà de quelqu'un qui en donne à lire, à des quelqu'un qui ne sont pas encore, à tous ceux qui ne sont pas encore, mais qui recevront ce livre donc comme un classique. Donc, il s'agit ici de se demander si, ou qu'est-ce que l'on fait en inscrivant ce livre dans un programme de lecture, c'est-à-dire en faisant jouer ou bien une relation pédagogique particulière à quelqu'un, je prends la responsabilité de lui recommander un livre, voire même prendre la responsabilité donc d'instituer une tradition de lecture. Et la question est de savoir, peut-on répondre dans les deux cas? Jusqu'où peut-on prendre cette responsabilité, répondre du choix fait d'instituer ce livre dans une tradition? Et la raison pour laquelle il y aurait à hésiter, c'est que sur de nombreux plans, le livre de Paul Bourget n'est ici pas absolument satisfaisant. Et pour essayer de rendre compte de cela, je pourrait peut-être procéder avec les notions qui sont des notions assez contestables, mais qui permettent au moins de nommer la difficulté, à savoir par exemple de réfléchir au fait que on pourrait dire que ce livre a un auteur qui s'appelle Paul Bourget, tout en sachant que cette notion d'auteur d'un livre est extrêmement contestable, elle permet peut-être là de nommer au moins l'hésitation ici que j'essaye de soulever, à savoir que, évidemment, je veux dire, on hésite, et on hésiterait, j'hésiterais à recommander la lecture à quelqu'un et à instituer une tradition de lecture de Paul Bourget. À savoir, hésitation à faire de Paul Bourget un de ces auteurs qu'on recommande à quelqu'un, on hésiterait. Et de la même façon, il est clair qu'il y aurait à hésiter à faire de Paul Bourget un écrivain de toujours, qu'il faudrait toujours lire. C'est-à-dire que j'hésite à faire la même présentation que celle qui était faite par quelqu'un qui s'appelle Théodore de Vidzeva et qui, dans cette édition de la collection Nelson, était chargé de faire l'introduction, c'est-à-dire la présentation de ce livre. C'est-à-dire au moment où ce livre devient un classique, sous la forme de cet exemplaire de la collection Nelson, Théodore de Vidzeva, dont on peut peut-être dire déjà qu'il est dans une relation très particulière à ce livre. Il était jeune homme quand ce livre a été écrit, et il est un écrivain et un critique littéraire reconnu quand, quelques années après, il est invité à faire la présentation de ce livre. Et disons, dans la mesure où ce livre est un livre en abîme, c'est le principe de lecture qu'on pourrait adopter, disons donc qu'il est bien clair qu'au moment où Théodore de Vidzeva fait cette présentation, il se pose donc comme le disciple de Paul Bourget ayant été le maître. Donc il a présenté un livre qui parle d'histoire de maître et de disciple, sachant que lui-même a été le disciple d'un maître qui s'appelait Paul Bourget. Et quand il a donc à faire cette présentation, Théodore de Vidzeva dit que finalement, en matière de littérature, il y a là ce que Paul Bourget aurait fait à la fois de plus personnel et de plus parfait. Donc ce serait le meilleur livre. Et en même temps, il continue donc en disant, il y a une valeur littéraire de cette œuvre, il y a une forte et savante simplicité de l'intrigue, il y a un relief des figures, il y a une profonde vérité humaine, il y a une beauté poétique des paysages d'Auvergne. Il y a donc, je simplifie, d'évidentes qualités littéraires de cette œuvre. Donc, en ce sens, pour moi, ce que fait ici Théodore de Vidzeva, c'est recommander l'auteur. Et Théodore de Vidzeva n'a pas plutôt fini d'écrire cela, je veux dire, dans cette introduction, qu'il dit, qu'il avoue n'avoir découverte toutes ses qualités littéraires qu'en relisant le disciple quelques années après. C'est-à-dire que c'est effectivement au moment où il fait cette introduction que tout d'un coup il lui saute aux yeux que cette œuvre a des qualités littéraires. Ce qui veut dire pour moi que les qualités littéraires de cette œuvre, s'il y en a, ne sont pas quelque chose qui apparaît à première vue, et en tout cas qu'il y a autre chose que ses qualités littéraires. Et pour aller jusqu'au bout, on pourrait dire que il est largement admis pour nous qui referions ce travail de représenter encore une fois le livre de Paul Bourget, de le redonner à lire, nous aurions du mal à faire le geste que faisait Théodore Vidzeva, c'est-à-dire que nous aurions du mal à dire, au bout du compte, il y a aussi des qualités littéraires de cette œuvre. On aurait plutôt tendance à penser, en tout cas c'est le risque que je prends là, de dire qu'elles ne sont pas si grandes que cela. En tout cas que ça ne suffirait pas. Et donc, que recommander la lecture de ce livre ne pourrait avoir lieu sur le fond que cette œuvre est une œuvre qui a des qualités littéraires. Bien d'autres livres mériteraient à ce compte-là d'être lus. Et donc, faire fond sur cela, qui consiste à dire, après tout, Théodore de Vidzeva a été impressionné par ses livres, alors en 1889, quand il était jeune homme, pour d'autres raisons que les qualités littéraires de l'ouvrage qui ne lui sont apparues que bien après. Et que c'est de ce côté-là qu'il y aurait à chercher. Ce livre ne peut être relu, à mon sens, que si on porte attention à opérer cette distinction entre ce que ce livre a pu être comme ce que j'appellerais simplement événement de lecture pour le moment, et œuvre littéraire. Et il y a peut-être aussi une autre notion contestable qui permet de nommer cette hésitation, et qui est évidemment une notion qui va avec la notion d'auteur, à savoir, avons-nous affaire, à défaut d'un grand romancier, avons-nous affaire à une œuvre ? Avons-nous affaire à un texte ? Ce qui va dans ce sens, c'est ce qui prolonge la remarque que faisait Vidzeva, qu'il y avait là ce que l'auteur avait fait de plus personnel et de plus parfait. Cette remarque est à prolonger pour la raison suivante, à savoir que le livre est plus connu que son auteur. Quand on lit les ouvrages de critiques littéraires, on s'aperçoit qu'il arrive presque naturellement sous la plume des auteurs d'écrire l'auteur du disciple et de l'écrire plus facilement que d'écrire Paul Bourget. Comme s'il y avait quelque chose de plus juste, et donc comme si l'œuvre avait s'était autonomisée par rapport à son auteur, avait dépassé l'auteur. Et donc la question que j'aurais par exemple à me poser donc à nouveau, à défaut de recommander la lecture d'un auteur qui s'appellerait Paul Bourget en tant que romancier, peut-on adopter l'autre possibilité, à savoir recommander à tout le moins le livre lui-même, le texte. Mais en même temps, on est bien obligé de constater que si ce livre passe à une postérité, il ne passe pas à la postérité non plus tout à fait comme texte, mais que le texte lui-même se défait. À savoir qu'on est obligé de constater que tout ce qui appartient au texte, l'intrigue, les personnages, un ensemble de notions de cet ordre, s'autonomisent eux-mêmes par rapport au texte. Donc comme le texte devient plus important que l'auteur, un certain nombre d'éléments du texte deviennent plus importants que le texte lui-même. L'ensemble des citations, l'ensemble des lectures qui font que le texte est passé à la postérité sont des éléments du texte, sont des figures du texte et non pas le texte lui-même. À savoir, pour simplifier l'idée, à savoir le personnage d'Adrien Sixte, une figure de philosophe, philosophe moderne, j'y reviendrai. Il est donné aussi une autre figure du disciple, qui s'appelle Robert Gréloux. Et ce qu'on constate, c'est que dans la postérité, pour autant qu'elle existe, de ce livre, ces deux personnages ont davantage de postérité que le texte du disciple lui-même, que le roman lui-même. On dira un Adrien Sixte, un Robert Gréloux, comme si c'était devenu des noms communs. Et donc il y a un certain nombre, je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement, un certain nombre d'éléments du texte qui passent à la postérité, mais pas le texte lui-même. Et j'en prendrai un seul exemple, à savoir un exemple que j'emprunte donc à l'année 1953. En 1953, nous sommes un an avant que le disciple ne continue de devenir un classique, c'est-à-dire un an avant qu'il soit réédité dans la collection des classiques Larousse. Et pourtant, plus que cette réédition du texte, paraît significatif le fait que ce texte peut servir dans cette année-là à autre chose, à savoir dans un article du Mercure de France, on voit un auteur d'article utiliser le disciple comme métaphore pour parler de, écrire sur, nommer sans le nommer, Jean-Paul Sartre et la vogue existentialiste. C'est-à-dire que pour adresser un certain nombre de critiques à Jean-Paul Sartre et à la vogue existentialiste de ces années 53, on utilise quelque chose du texte de Paul Bourget. Et donc on dit l'Adrien Sixte de notre temps, le Robert Gréloux de notre temps. On fait cet usage-là du texte. Donc, à nouveau, me semble-t-il, quelque chose qui indique qu'il y a dans ce livre quelque chose que j'appellerais simplement un événement de lecture, qui peut toujours avoir lieu, je veux dire, qui est disponible, mais qui doit être compris et pensé, et c'est toute la difficulté, et d'une certaine façon, ce travail n'est pas abouti, dans sa différence d'avec aussi bien un texte que un auteur. Relire donc ce soir le disciple, sans donner à relire ni Paul Bourget, ni le disciple. De quoi peut-il donc s'agir, quoi ? Eh bien, il s'agit précisément, je crois, de ce qui motive mon hésitation, à savoir qu'il n'y a rien d'autre à lire que la question que je pose, quoi. Qu'est-ce que c'est que recommander une lecture ? Qu'est-ce que c'est que donner à lire ? Qu'est-ce qui se passe entre, dans cette différence difficilement saisissable entre écrire et donner à lire, qui tout de même est une question un peu singulière. Ce que j'appelle l'événement de lecture du disciple est un événement dans lequel, pour une part, et dans des formes assez complexes, multiples, embrouillées, dont je me contenterai d'en présenter un certain nombre, parce qu'il y a une véritable affaire autour de ce livre, essayer de faire entendre comment, dans ce réseau complexe, ce livre a réussi à faire entendre quelque chose de la différence entre écrire et donner à lire. Je propose d'entrer, dans la mesure où cette question, c'est dans un livre qu'elle a été donnée à lire, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas la trancher avant nous-mêmes, nous ne pouvons qu'entrer dans cette question de quoi s'agit-il quand on donne à lire quelque chose à quelqu'un, on ne peut le faire qu'en entrant dans le livre qui a réussi à l'écrire et à le donner à lire. Alors donc le livre commence par l'évocation d'un philosophe moderne, Adrien Sixte. Philosophe moderne, donc c'est le titre du premier chapitre. Et je voudrais déjà noter que s'il y a des philosophes modernes, c'est que justement le donner à lire, ce que le programme de lecture s'est modifié. À savoir qu'il y a donc une modernité de la philosophie qui reprend la question de ce qui doit être lu et donné à lire. Et cela se donne dans la figure d'Adrien Sixte, comme philosophe moderne, cela se donne dans cette figure et est porté à sa pureté, à un double niveau. D'abord, Adrien Sixte est adepte d'une psychologie phénoméniste et déterministe. Donc adepte d'une psychologie qui voit dans tous les sentiments et dans toutes les sensations que les hommes sont capables d'éprouver, des créations psychologiques parfaitement secondaires et qui seraient réductibles par l'analyse à certains enchaînements physiques primitifs. Ce qu'énonce Adrien Sixte comme philosophe moderne est finalement que tout ce qui est littérature, tout ce qui est légende, tout ce que l'humanité a écrit et a donné à lire, tout ce qu'elle a posé comme tradition, comme programme de lecture, n'est qu'une création secondaire au profit d'un nouveau donné à lire scientifique qui procéderait exclusivement à partir d'enchaînements physiques. Donc Adrien Sixte fait partie de ces philosophes capables d'écarter d'un revers de main toute la tradition, toute la légende, toute la littérature, et de se donner comme origine et comme source d'un programme de lecture radicalement nouveau, capable de remplacer et de secondariser tout ce qui a précédé. Donc on voit bien en quoi c'est bien la question de quel est le programme de lecture qui apparaît avec Adrien Sixte. Cette modernité est portée à sa pureté à un double niveau, dans la mesure où cette réduction à la science, écartant toute la littérature, tout ce qui est à lire, quoi, est opérée par Adrien Sixte sur sa propre vie, ce qui donne lieu à un savoureux portrait, à savoir que la vie d'Adrien Sixte donc, est telle qu'il est débarrassé le plus complètement possible des sentiments communément cultivés par l'humanité. Cet homme n'a pas de femme, n'a pas d'enfant, n'a pas de sentiments, n'a pas d'amis, n'a pas de voisins. Cet homme n'a rien. Il n'y a aucune création psychologique secondaire qui encombre sa vie. Cet homme passe sa vie en se consacrant uniquement à lire et à écrire des livres de science. Et il est un pur donnant à lire. En tout cas, il est un pur écrivain. Cet écrire va lui revenir sous la forme de ce qu'il a donné à lire, donc sous la personne d'un jeune homme qui vient lui déclarer qu'il accuse réception de cette lecture, qui vient se déclarer son élève et qui désire le rencontrer. Cet événement en tant que création psychologique secondaire pour Adrien Sixte est très limité comme événement. Il reste que, aussi limité soit-il, donc Adrien Sixte se laisse aller, il ne peut peut-être pas faire autrement, en tout cas quelque chose s'ouvre là, se laisse aller à jouer le jeu des créations psychologiques secondaires. Il va recevoir deux visites de ce jeune homme, il va avoir une correspondance avec ce jeune homme, formant 5 ou 6 lettres, et donc formant une correspondance d'une 30aine de pages. Il va avoir une conversation sur l'avenir de ce jeune homme, et des études qu'il pourrait entreprendre. Bon, toutes choses, comme on voit, qui sont cette prise en compte qu'écrire, c'est avoir donné à lire quelque chose à quelqu'un, et cela doit être continué. Donc il reçoit ce lecteur, il lui écrit, il précise ce qu'il a voulu écrire, donc effectivement cela devient écrit pour quelqu'un. Il discute de l'avenir d'un jeune homme, c'est-à-dire il discute de quels autres livres ce jeune homme pourrait bien lire, quel programme de lecture ce jeune homme pourrait-il bien former. Et donc, d'une façon sans doute très limitée, Adrien Sixte fait l'expérience donc que écrire, c'est donner à lire à quelqu'un, et c'est donc s'engager dans une histoire. Et beaucoup de temps après, c'est-à-dire bien après, cette histoire va advenir au philosophe. À savoir, ce philosophe moderne va être convoqué par un juge d'instruction comme témoin dans une affaire criminelle. Le jeune homme en question, on a vu qu'il s'appelait Robert Gresloup, est devenu précepteur dans une famille en Auvergne, et il est accusé d'avoir empoisonné la jeune fille de la maison qu'il aurait courtisée sans succès pour empêcher son mariage avec un autre, un bon militaire ami de son frère. Et on demande à Adrien Sixte d'éclairer la justice sur les dispositions psychologiques de Robert Gresloup, l'inculpé, sachant donc qu'il l'a un peu connu, et sachant surtout que le jeune homme est connu comme s'étant nourri des livres d'Adrien Sixte. La question est la suivante, ayant les idées qu'il a, et du fait de ses idées, Robert Gresloup est-il capable du meurtre dont on l'accuse? Et avec une naïveté sans limite, Adrien Sixte fait devant le juge d'instruction la preuve qu'aucune création psychologique secondaire ne tient dans l'esprit d'un philosophe moderne devant une logique déterministe et phénoméniste, à savoir qu'aucune création psychologique secondaire ne pourrait éventuellement retenir la main d'un philosophe moderne d'effectuer un acte coupable aux yeux des hommes et de la société pris, eux, dans une histoire secondaire de création psychologique. Et Adrien Sixte sort de cet entretien avec le juge d'instruction, plus philosophe moderne que jamais. Il en tire la conclusion qu'il faut recevoir encore moins, puisque recevoir un lecteur, c'est s'exposer à être convoqué des années après chez un juge d'instruction. Et il se demande aussi comment analyser le cas tout à fait intéressant qui lui a été proposé, le cas Gresloup. Pas l'ombre d'une émotion, quelque chose qui, à nouveau, le réinscrit totalement donc dans l'écrire et non pas dans le donner à lire. Mais une nouvelle visite vient l'arracher à cette décision, qui est la visite de la mère de Robert Gresloup, qui apporte à Adrien Sixte un manuscrit de son fils, intitulé « Confession d'un jeune homme d'aujourd'hui ». Et donc que ce philosophe moderne va lire, et que le roman va, dans une grande moitié de ce roman, reproduire. C'est donc un journal dans lequel le jeune homme s'analyse selon les procédés de la psychologie, et décrit donc l'enchaînement qui l'aurait conduit à sa situation présente. Et donc, conformément aux leçons du maître, Robert Gresloup va commencer par ses hérédités. C'est ce que je vous propose d'entendre, donc de la bouche de Daniel Rejvar.
Mon père, que j'ai perdu tout jeune, était d'origine lorraine. Il occupait à Clermont la place d'ingénieur des ponts et chaussées. C'était un homme chétif, de santé faible, avec un visage à la barbe rare, empreint d'une sérénité mélancolique et qui m'attendrit quand j'y songe après des années. Je le revois dans son cabinet de travail, par les fenêtres duquel s'apercevait la plaine immense de la Limagne, avec au loin la ligne sombre des montagnes du Forez. La gare était voisine de notre maison, et le sifflement des trains arrivait sans cesse jusqu'à ce cabinet paisible. J'étais sur le tapis, au coin du feu, à jouer sans bruit, et cet appel strident produisait dès lors sur mes nerfs une étrange impression de mystère, d'éloignement, d'une fuite de l'heure et de la vie. Mon père traçait à la craie, sur un tableau noir, des signes énigmatiques, figures de géométrie ou formules d'algèbre, avec cette netteté dans les lignes des courbes ou les lettres des polynômes qui révélait l'habituelle méthode de son être intime. D'autres fois, il écrivait debout à une table d'architecte qu'il préférait à son bureau, table composée simplement d'une large planche en bois blanc placée sur deux tréteaux. Les grands livres de mathématiques rangés avec minutie dans la bibliothèque, les figures froides des savants dont les portraits gravés en taille douce et sous verre étaient les seuls objets d'art dont se décorassent les murs. La pendule qui représentait un globe du monde, deux cartes astronomiques pendues au-dessus du bureau et, sur ce bureau, la règle à calcul avec ses chiffres et son coulant de cuivre, les équerres, les compas, la règle plate en forme de T. J'évoque à mon gré ces menus détails où tout n'était que pensée, et ces images m'aident à comprendre comment, dès ma lointaine enfance, le rêve d'une existence purement idéale et contemplative s'élabora en moi. Mes réflexions postérieures m'ont fait reconnaître dans plusieurs traits de mon caractère le résultat transmis sous forme instinctive de l'existence en études abstraites menée par mon père. J'ai constamment éprouvé, par exemple, une horreur singulière pour l'action, si faible fut-elle, au point que de faire une simple visite me causait autrefois un battement de cœur, que les plus légers exercices physiques m'étaient intolérables, que d'entrer en lutte ouverte avec une autre personne, même pour discuter mes idées les plus chères, m'apparaît encore aujourd'hui chose presque impossible. Cette horreur d'agir s'explique par l'excès du travail cérébral qui, trop poussé, isole l'homme au milieu des réalités. Il les supporte mal parce qu'il n'est pas habituellement en contact avec elles. Je le sens bien, cette difficulté d'adaptation au fait me vient de ce pauvre père. De lui aussi cette faculté de généraliser, qui est la puissance, mais en même temps la manie de ma pensée. Et c'est son œuvre encore que cette prédominance morbide du système nerveux qui a rendu ma volonté si folle à certaines heures. Mon père n'avait jamais été robuste. Il avait dû, à l'âge de la croissance, subir cette épreuve de la préparation à l'école polytechnique meurtrière aux meilleures santé. Avec ses épaules étroites, avec ses membres appauvris par les longues séances de méditation sédentaire, ce savant aux mains transparentes semblait avoir dans les veines, au lieu des rouges globules d'un sang généreux, un peu de la poussière de cette craie qu'il a tant maniée. Il ne m'a pas légué des muscles capables de contrebalancer l'excitabilité de mes nerfs, en sorte que je lui dois, avec cette faculté d'abstraction qui me rend la moindre activité difficile, une effrénée intempérance du désir. Chaque fois que j'ai souhaité ardemment, il m'a été impossible de réprimer cette convoitise. C'est une hypothèse qui m'est souvent venue, quand je m'analysais moi-même, que les natures abstraites sont plus incapables que les autres de résister à la passion, lorsque cette passion s'éveille. Peut-être parce que le rapport quotidien entre l'action et la pensée est brisé en elles. Les fanatiques en seraient la preuve la plus éclatante. J'ai vu ainsi mon père, d'habitude extrêmement patient et doux, s'emporter en des colères d'une violence folle qui le faisait presque s'évanouir. Sur ce point aussi, je suis bien son fils. Et à travers lui, le descendant d'un grand-père peu équilibré, sorte d'homme de génie primitif, demi-paysan parvenu à force d'invention mécanique à une demi-fortune d'ingénieur civil, puis ruiné par des procès. De ce côté-là de ma race, il y a toujours eu un élément dangereux, quelque chose de déchaîné par instant, à côté d'une intellectualité constante. J'ai considéré jadis comme un état supérieur cette double nature, des crises spasmodiques de passion jointes à cette énergie continue de pensée abstraite. J'ai eu pour rêve d'être à la fois fiévreux et lucide, le sujet et l'objet, comme disent les Allemands, de mon analyse, le sujet qui s'étudie lui-même et trouve dans cette étude un moyen d'exaltation et de développement scientifique. Hélas, où cette chimère m'a-t-elle mené ? Mais ce n'est pas encore l'heure de parler des effets, nous ne sommes encore qu'aux causes. J'ai reçu de mes conversations avec mon père, à ce même âge, durant nos promenades, le premier germe de ma vue scientifique du monde. La campagne autour de Clermont est merveilleuse, et quoique je sois au rebours du poète, un homme pour qui le monde extérieur existe très peu, j'ai gardé à jamais au fond de ma mémoire l'image des horizons qui ont entouré ses promenades. Tandis que la ville d'un côté regarde vers la plaine de Limagne, elle s'adosse de l'autre côté au dernier contrefort de la chaîne des dômes. L'échancrure des cratères éteints, la boursouflure des éruptions calmées, les coulées de lave refroidies donnent aux lignes de ces montagnes volcaniques une ressemblance avec les paysages que le télescope découvre dans ce cadavre de planète qui est la Lune. C'est donc, là-bas, un sauvage et grandiose souvenir des plus terribles convulsions du globe, et ici, la plus jolie rusticité de chemins pierreux entre des vignes, de ruisseaux murmurant sous des saules et parmi des châtaigniers. Les grands bonheurs de mon enfance ont consisté dans d'interminables vagabondages avec mon père, sur tous les sentiers qui vont ainsi du Puy de Crouel à Gergovie, de Roya à Durtol, de Beaumont à Gravenoir. Rien qu'à écrire ces noms, ma mémoire rajeunit mon cœur. Me revoici le petit garçon qu'un portrait conservé me montre avec ses longs cheveux, avec ses chambres serrées dans des guêtres de drap, qui chemine en tenant la main de mon père. D'où lui venait ce goût des chants à lui, le savant mathématicien, l'homme de cabinet et de réflexion abstraite? J'y ai souvent songé depuis, et je crois avoir découvert à son occasion une loi peu connue du développement des esprits. Nos goûts de jeunesse persistent, même quand nous nous sommes développés dans un sens contraire à eux, et nous continuons de les pratiquer en les justifiant par des raisons intellectuelles qui les excluraient. Je m'explique. Mon père avait la campagne, naturellement, parce qu'il avait été élevé dans un village, que tout petit il avait passé des journées entières au bord des ruisseaux, parmi les insectes et les fleurs. Au lieu de s'abandonner à ses goûts d'une manière simple, il y mélangeait ses préoccupations actuelles de savant. Il ne se serait point pardonné d'aller dans la montagne sans y étudier la formation du terrain, de regarder une fleur sans en déterminer les caractères et sans en découvrir le nom, de ramasser un insecte sans se rappeler sa famille et ses mœurs. Grâce à la rigueur de sa méthode en tout travail, il était arrivé ainsi à une connaissance très complète de la contrée, et, quand nous marchions ensemble, cette connaissance faisait la matière unique de notre entretien. Le paysage des montagnes lui devenait un prétexte pour m'expliquer les révolutions de la Terre. Il passait de là, sans effort, avec une clarté de parole qui me rendait de telles idées perceptibles, à l'hypothèse de Laplace sur la nébuleuse, et j'apercevais distinctement, en imagination, les protubérances planétaires s'échappant du noyau enflammé de ce torride soleil en rotation. Le ciel de la nuit, par les beaux mois d'été, devenait une espèce de carte qu'il déchiffrait pour mes yeux de 10 ans, où je distinguais l'étoile polaire, les 7 étoiles du chariot, Vega de la Lyre, Sirius, tous ces univers inaccessibles et formidables dont la science connaît le volume, la position et jusqu'aux métaux. Il en était de même des fleurs qu'il me dressait à ranger dans un herbier, des cailloux que je cassais sous sa direction avec un petit marteau en fer, des insectes que je nourrissais ou que je piquais suivant les cas. Bien avant que l'on ne pratiquât dans les collèges les leçons de choses, mon père appliquait à mon éducation première sa grande maxime, ne rien rencontrer que l'on en se rende compte scientifiquement, conciliant ainsi la paysannerie de ses premières impressions avec la précision acquise dans ses études mathématiques. J'attribue à cet enseignement le précoce esprit d'analyse qui se développa en moi dès cette première adolescence et qui se serait sans doute tourné vers les études positives si mon père avait vécu. Mais il ne devait pas achever cette éducation entreprise d'après un plan raisonné dont j'ai retrouvé la trace dans ses papiers. Justement, au cours d'une de ses promenades, et dans l'été de ma 10e année, nous fûmes surpris, lui et moi, par un orage qui nous mouilla l'un et l'autre jusqu'aux os. Nous étions en âge d'avoir marché. Pendant le temps que nous mîmes à revenir, avec nos vêtements ainsi trempés, mon père eut très froid. Le soir, il se plaignit d'un frisson. 2 jours après, une fluxion de poitrine se déclarait, et la semaine suivante, il était mort.
Donc un père dans un univers d'écriture, et une autre image du père parcourant les sentiers de la montagne, et donc étendant sur les choses un réseau de connaissances scientifiques. deux figures du père qui sont donc aussi deux figures de la science, tendues par l'opposition entre les mathématiques, les figures que l'on écrit à la craie sur le tableau noir, et l'histoire naturelle, les objets que l'on rencontre et que l'on recueille sur les sentiers de montagne, et donc une opposition qui est réconciliée dans la façon dont, à l'époque, je veux dire, on fait jouer en particulier cette figure de l'astronomie et une astronomie qui devient une astronomie physique, permettant de connaître les astres, non plus seulement comme des figures à inscrire sur un tableau noir, c'est-à-dire des mouvements des astres, mais aussi des astres dont on connaît le volume et les métaux. Donc, deux figures du père, donc deux figures d'un programme de lecture, de lettres tracées à la craie, et d'une nature aperçue au cours d'une promenade. Et pour l'enfant, dans cette dualité de ces deux figures, on nous dit aussi qu'un plan raisonné d'éducation est pensable. Et en même temps, quelque chose met cette situation en crise, à savoir ce sur quoi le passage qu'on vient d'entendre s'achève, à savoir que ce père meurt, mais aussi que cette mort du père met au premier plan une autre dualité qui n'a pas été relue dans ce passage, à savoir celle qui va opposer cet univers de science et d'éducation représenté par le père à la fréquentation de la messe par la mère. Et cette opposition-là, elle ne va pas se réconcilier. Elle ne va pas se réconcilier comme se réconcilient au XIXe siècle les mathématiques et l'histoire naturelle, et en particulier une réconciliation sous les espèces d'un ingénieur des ponts et chaussées. Une réconciliation pour laquelle l'école polytechnique justement fait image, retrouvaille de l'esprit épiméthéen et de l'esprit prométhéen. Cette opposition, au lieu de se concilier, va déboucher sur un silence, le silence de la mère. Silence de la mère à la question posée par le disciple, pourquoi est-ce que le père ne va pas à la messe? À quoi la mère répond que ces questions, les enfants ne doivent pas les poser. Et donc cette opposition entre ce programme de science et d'éducation et la fréquentation religieuse donc débouche là non plus sur une conscience, mais sur un silence qui met en péril tout ce qui est donné à lire. Tout ce donné à lire est en son fond contestable, irreligieux, vain. Et donc, ce qui travaille ce texte, c'est aussi un autre aspect du rousseauisme, non plus ce qu'on peut entendre comme un prolongement de l'Émile, mais quelque chose que on pouvait lire chez le Rousseau de la Nouvelle Héloïse ou dans le Rousseau des Confession, et qui avait été repris 10 ans avant par un texte de Guyot sur l'irreligion de l'avenir, à savoir que, à côté du donné à lire paternel, inscriptible raisonnablement dans un plan d'éducation, quelque chose qui tend justement un plan d'éducation raisonnable entre ce qui est écrit quelque part et ce qui est donné à lire de l'autre, ce que les confessions rappelle, ce que la nouvelle Héloïse rappelle, c'est que cette scène paternelle est toujours mise en péril par une séduction première par la mère. Dans la nouvelle Héloïse et les confessions, on sait que c'est l'attachement de la mère ou à la religion ou au roman, en tout cas à quelque chose qui ne peut pas être inscrit dans un programme de lecture. Et donc il y a une lecture antérieure qui, du côté maternel ou du côté du roman ou du côté de l'histoire personnelle, il y a quelque chose d'écrit qui ne peuvent pas être inscrits dans un programme raisonné de lecture, mais qui relève de l'ordre de la séduction, pourquoi la mère fait image. Ce qui nous conduit à lire la suite.
J'étais à cette époque déjà passionné de lecture, et le hasard m'avait mis entre les mains des volumes très différents de ceux qui se donnaient en prix dans les distributions. Voici comment. Quoique mon père, en sa qualité de mathématicien, eût peu de lettres, il aimait quelques auteurs qu'il comprenait à sa manière. En retrouvant plus tard quelques-unes de ses notes sur ces auteurs, j'ai pu apprécier à quel degré la sensation des littératures est chose personnelle, irréductible, incommensurable pour emprunter un mot à sa science favorite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les raisons pour lesquelles deux esprits goûtent ou repoussent un même écrivain. Entre autres ouvrages, mon père possédait dans sa bibliothèque une traduction de Shakespeare en deux volumes, sur lesquels on m'asseyait pour hausser ma chaise devant la table quand le temps fut venu de quitter mon siège de bébé. On me laissait ensuite, et sans y prendre garde, manier ces volumes, illustrés de gravures qui incitèrent bientôt ma curiosité à lire des morceaux du texte. C'était une Lady Macbeth se frottant les doigts sous le regard terrifié du médecin et d'une servante, un Othello entrant le poignard à la main dans la chambre de Desdémone et penchant sa face noire sur la blanche forme endormie, un roi Lear déchirant ses vêtements sous les zigzags des éclairs, un Richard III couché dans sa tente et environné de spectres. Et du texte qui accompagnait ces gravures, je lus tant et tant de fragments que je finis par me familiariser avant ma 10e année avec ces drames qui exaltaient mon imagination. J'aimais ces rois qui défilaient, joyeux ou désespérés, à la tête de leur armée, qui perdaient ou gagnaient des batailles en quelques instants, ces tueries accompagnées de fanfares parmi les drapeaux déployés et les apparitions, ces rapides passages d'un pays à un autre et cette géographie chimérique. Enfin, ce qu'il y a de très abrégé, de presque rudimentaire dans ces pièces, et particulièrement dans les chroniques, me séduisait au point que, resté tout seul, il m'arrivait de les jouer avec des chaises, qui devenaient ainsi York ou Lancaster, Warwick ou Gloucester. Oh, naïveté! Mon père, lui, dont les répugnances pour les réalités douloureuses de la vie étaient extrêmes, avait goûté dans Shakespeare les côtés touchants et purs, les profils de femmes d'une délicatesse achevée. Tous ces livres, je les lisais aussi, et par surcroît ceux de Walter Scott, de même que les récits champêtres de George Sand dans une autre édition illustrée. Il est certain qu'il eût mieux valu pour moi ne pas nourrir mon imagination d'éléments aussi disparates et quelques-uns dangereux. Mais mon âge ne me permettait guère de comprendre que le quart des phrases, tandis que mon père peinait à son tableau noir, en train de combiner ses formules. La foudre serait tombée sur la maison sans qu'il y prît garde, emporté qu'il était sur les ailes du puissant démon de l'abstraction. Ma mère, à qui ce démon-là est aussi étranger que la bête de l'Apocalypse, ne resta pas longtemps après la mort de mon père, sans fureter dans la pièce où je travaillais à mes devoirs. Et, par-dessous un thème commencé, elle découvrit un grand volume ouvert. C'était l'Ivanhoé de Scott. « Qu'est-ce que c'est que ce livre ? » demanda-t-elle. « Qui t'a permis de le prendre ?»« Mais je l'ai déjà lu une fois, » répondis-je. « Et cela ? » continua-t-elle en inspectant la petite bibliothèque qui, à côté de mes bouquins d'écolier, enfermait, outre le Shakespeare, les Nouvelles Genevoises et Nicolas Nickleby, Robroy et la Mare au Diable. « Ce n'est pas de ton âge, » insista-t-elle. « Tu vas me faire le plaisir d'emporter tous ces livres avec moi dans le salon, pour les enfermer dans la bibliothèque de ton père. » Je me vois encore transbordant, trois par trois, les volumes, dont quelques-uns étaient très lourds pour mes petits bras, dans la froide pièce garnie de housse qui donnait sur le balcon. De ses doigts qui sortaient tout blancs de leur mitaine noire, ma mère prenait les volumes, les rangeait à côté des gros traités de mathématiques. Elle ferma la porte vitrée du meuble et en détacha la clé, qui prit place, parmi d'autres, dans le trousseau qu'elle portait toujours avec elle. Puis elle ajouta sévèrement, « Quand tu voudras lire un livre, tu me le demanderas. » Moi, lui demander un de ses livres, mais lequel ? Je savais si bien qu'elle me refuserait tous ceux que j'aurais envie de relire et dont je venais regarder les titres à travers le vitrage. Je me rendais déjà trop compte que nous ne pensions de la même manière sur aucun point.
Donc ce qui est mis en place là, c'est que derrière l'apparente simplicité du lien qui conduit de l'univers d'écriture à une saisie de la nature, s'est exercée une séduction première par la lecture, une séduction première donc à partir de laquelle on ne peut pas inscrire, sur laquelle on ne peut pas inscrire un programme de lecture, et cette séduction va donc, dans la suite de ce journal, continuer à exercer son influence, et donc Robert Grélou, le disciple, raconte comment il va perdre la foi après une crise religieuse, comment il va accéder, en dépit de la fermeture de la bibliothèque paternelle, dont, je cite, « la clé continuait à cliqueter sur l'anneau d'acier du trousseau de sa mère entre celle de l'office et celle de la cave », comment il va donc, en dépit de la fermeture de sa bibliothèque, accéder à la littérature contemporaine grâce à des extraits de récitations et aussi grâce à la fréquentation d'un camarade de lycée moins surveillé que lui et qui s'appelle justement Émile et avec laquelle il va goûter aux fruits des livres défendus. Et cette séduction se poursuit bien entendu par l'expérience de la sexualité avec une ouvrière de 30 ans qui va s'appeler Marianne et enfin par l'entrée dans la classe de philosophie où il va découvrir les livres d'Adrien Sixte.
Pour vous expliquer d'une façon très nette comment votre pensée pénétra la mienne, permettez-moi de passer aussitôt au résultat de cette lecture et des méditations qui la suivirent. Vous verrez comment je pus tirer de vos ouvrages une éthique complète, raisonnée, et qui coordonna d'une manière merveilleuse les éléments épars en moi. Je rencontrai d'abord, dans le premier de ces trois ouvrages, La psychologie de Dieu, un apaisement définitif à cette angoisse religieuse dans laquelle je continuais de vivre malgré mes doutes. Certes, les objections contre les dogmes ne m'avaient pas manqué depuis que je lisais au hasard tant de livres dont beaucoup manifestaient la plus audacieuse irréligion. Et surtout, je m'étais senti attiré vers le scepticisme parce que je lui trouvais un double caractère de supériorité intellectuelle et de nouveauté sentimentale. J'avais subi, entre autres influences, celle de l'auteur de la vie de Jésus. La magie exquise de son style, la grâce souveraine de son dilettantisme, la poésie langoureuse de sa pieuse impiété m'avaient remué profondément. Mais je n'étais pas pour rien le fils d'un géomètre, et je n'avais pas été satisfait de ce qu'il y a d'incertain, de nuancé jusqu'à l'à peu près dans cet incomparable artiste. C'est la rigueur mathématique de votre livre, à vous, mon cher maître, qui s'empara de ma pensée. Vous me démontriez à la fois avec une dialectique irrésistible que toute hypothèse sur la cause première est un non-sens, l'idée même de cette cause première une absurdité, et que néanmoins ce non-sens et cette absurdité sont aussi nécessaires à notre esprit que l'illusion à nos yeux d'un soleil en train de tourner autour de la Terre, quoique nous sachions que ce soleil est immobile et cette Terre en mouvement. La puissante ingéniosité de ce raisonnement ravit mon intelligence, qui, s'abandonnant docilement à votre conduite, en arriva enfin à une vision du monde lucide et justifiée. J'aperçus l'univers tel qu'il est, et pendant son commencement et sans but, le flot inépuisable de ses phénomènes. Le soin que vous avez eu d'appuyer toutes vos argumentations sur des faits empruntés à la science correspondait trop bien aux lointains enseignements de mon père pour ne pas me séduire par cela aussi, par ce charme d'une ancienne habitude d'esprit pratiquée à nouveau après tant d'années. Je lisais et je relisais vos pages, les résumant, les commentant, et m'appliquant avec l'ardeur d'un néophyte à m'en assimiler tout le suc. L'orgueil intellectuel que j'avais senti remuer en moi dès mon enfance s'exaltait dans le jeune homme qui apprenait de vous le renoncement aux plus douces, aux plus consolantes utopies. Ah, comment vous raconter ces fièvres d'une initiation qui fut pareille à un premier amour par les félicités de l'enthousiasme et ses ferveurs. J'avais comme une joie physique à renverser, vos livres à la main, l'antique édifice des croyances où j'avais grandi. Cet hymne à la science, dont chacune de vos pages est comme une strophe, je l'écoutais avec un ravissement qui fut d'autant plus intense que la faculté d'analyse, principale raison de ma piété, trouvait à s'exercer, grâce à vous, avec une autre ampleur qu'au confessionnal, et que vos deux grands traités m'éclairaient sur mon univers intérieur, en même temps que la psychologie de Dieu m'éclairait sur l'univers extérieur, d'une lumière qui, même aujourd'hui, reste mon dernier, mon inextinguible fanal dans la tempête. Toutes les incohérences de ma jeunesse, en effet, comme vous me les expliquiez, cette solitude morale dont j'avais tant souffert auprès de ma mère, auprès de ma camarade, auprès de tous, même d'Émile, je la comprenais maintenant. Dans vos théories des passions, n'avez-vous pas démontré que nous sommes impuissants à sortir du moi et que toute relation entre deux êtres repose sur l'illusion comme le reste? Cette chute d'essence dont j'avais eu des remords si atroces, votre anatomie de la volonté m'en révélait les motifs nécessaires, l'inéluctable logique. Les complications que je m'étais reprochées en m'y attardant, comme un manque de franchise, vous me faisiez reconnaître une loi de l'existence même, imposée par l'hérédité à notre personne. Je me rendais compte aussi, grâce à vous, qu'en recherchant dans les romanciers et les poètes de ce siècle des états de l'âme coupable et morbide, j'avais, sans m'en douter, suivi une vocation innée de psychologue. Je me revois, partant en promenade, par des chaudes journées d'été, un de ses livres dans la poche, et, une fois seul dans la campagne, lisant quelqu'une de ses phrases et m'exaltant à en méditer le sens. J'appliquais au paysage qui m'environnait cette interprétation philosophique de ce qu'il est convenu d'appeler le mal. Sans doute, les éruptions qui avaient soulevé la chaîne des dômes, au pied desquels j'errais ainsi, avaient dû dévaster de laves brûlantes la plaine voisine et détruire des êtres. Pourtant, elle avait produit cette magnificence d'horizon qui me ravissait quand mes yeux contemplaient la coupe gracieuse du Pariou, le Puy de Dôme et toute la ligne de ces nobles montagnes. Le long des chemins verdoyaient des euphorbes en fleurs dont je brisais les tiges pour voir le poison en dégoûter, blanc comme du lait. Mais ces fleurs vénéneuses nourrissaient une belle chenille titimale, verte avec des taches sombres, et un papillon en devait naître, un sphinx aux ailes colorées des plus fines nuances. Parfois, une vipère glissait entre les pierres de ces routes poudreuses, que je regardais aller, grise sur la pouzzolane rouge, avec sa tête plate et la souplesse de son corps tacheté. La dangereuse bête m'apparaissait comme une preuve de l'indifférence de cette nature, qui n'a d'autre souci que de multiplier la vie, bienfaisante ou meurtrière, avec la même inépuisable prodigalité. Je sentais alors, avec une force inexprimable, se dégager de ces choses la même leçon que de vos œuvres, à savoir que nous n'avons rien à nous que nous-mêmes, que le moi seul est réel. Mes vieilles croyances en un Dieu père et juge me semblaient des songes d'enfants malades, et je me dilatais jusqu'aux extrêmes limites du vaste paysage, jusqu'aux profondeurs de l'immense ciel vide, en songeant que moi, chétif, j'avais assez réfléchi déjà pour comprendre de ce monde ce qu'aucun des paysans que je voyais passer ne comprendrait jamais. Avec quelle délice je les méprisais dans mon cœur, eux et ma mère, quoique je ne me fusse pas décidé à déclarer mon athéisme, prévoyant trop quelle scène cette déclaration provoquerait. Mais ces scènes n'importent guère, et j'arrive maintenant à l'exposé d'un drame qui n'aurait pas de sens si je ne vous avais pas fait ainsi entrer d'abord dans l'intime de ma pensée et de sa formation.
À partir de là, s'enchaîne dans le journal de Gresloup un ensemble de crises. Il est transporté, transplanté en Auvergne comme précepteur. Il y est confronté à son contraire, le comte André, qui est un homme d'action, une force de la nature. Il fait à nouveau l'expérience que de vivre dans cet autre monde, il est l'objet d'une personnalité double, comme le texte, le passage qu'on vient de relire le montrait. Vivant donc, et en même temps se regardant vivre, donc vivant dans cette famille auvergnate et s'y regardant vivre. Et donc dans ce contexte, et sous la notation donc d'une crise, Robert Gresloup forme le projet de séduire la fille de cette famille, Charlotte. Et cette séduction est effectuée à l'aide de mauvais trucs inspirés d'intrigues romanesques, et aussi à partir d'un programme de lecture dans un épisode qui prend donc la forme suivante.
« Je voudrais vous demander un service, me dit-elle. Et timidement, j'ai beaucoup d'heures libres ici, dont je ne sais trop que faire. Je voudrais avoir vos conseils pour mes lectures. Le livre que vous avez choisi l'autre jour m'a fait tant de plaisir. » Et elle ajouta, « D'ordinaire, les romans m'ennuient, et celui-là m'a tellement intéressé. » Je ressentis, à l'entendre me parler de la sorte, la joie que le comte André dut goûter en voyant le soldat ennemi qu'il a tué pendant la guerre ériger sa tête curieuse au-dessus du mur. Moi aussi, il me sembla que je tenais mon gibier humain au bout d'un fusil. En m'offrant de diriger ses lectures, Charlotte ne venait-elle pas se placer d'elle-même à ma portée? La réponse à cette demande me parut d'une importance telle que je feignis un grand embarras. Tout en la remerciant de sa confiance, je lui dis qu'elle me chargeait là d'une mission très délicate et dont je me jugeais incapable. Bref, je fis mine de décliner une faveur que j'étais ravi jusqu'à l'ivresse d'avoir obtenue. Elle insista, et je finis par lui promettre que je lui donnerais le lendemain même une liste d'ouvrages. Il s'agissait de ne pas me tromper dans ce choix autrement difficile que celui de Jenny Grandet. Je passais la soirée et une partie de la nuit à prendre et à rejeter en pensée des centaines de volumes. Comment déterminer ce qui remuerait son imagination sans la bouleverser, qui la troublerait sans la révolter? Enfin, je me dis tout haut, en imitant la voix de mon père, sa formule favorite. Procédons méthodiquement. Et j'arremenais ce problème à cet autre. Comment les livres avaient-ils agi sur mon imagination à moi, dans mon adolescence, et quel livre? Je constatais, ainsi que je voulais indiquer déjà dans cette minutieuse confession, que j'avais été attiré surtout vers la littérature par l'inconnu de l'expérience sentimentale. C'était le désir de m'assimiler des émotions inéprouvées qui m'avaient ensorcelé. J'en concluais que c'était loi générale de l'intoxication littéraire. Je devais donc choisir pour la jeune fille des livres qui éveillassent chez elle ce même désir, en tenant compte de la différence de nos caractères. J'avais aimé parmi les écrivains les compliqués et les sensuels, parce que c'étaient là les deux traits profonds, constitutifs de ma nature. Charlotte était fine, pure et tendre. Il convenait de l'engager sur le dangereux chemin de la curiosité romanesque par des peintures de sentiments analogues à son cœur. Je jugeais en dernière analyse que le Dominique de Fromentin, que la princesse de Clèves, Valérie, Julia de Trécœur, Le Lys dans la vallée, les romans champêtres de Georges Sand, certaines comédies de Musset, en particulier On ne badine pas avec l'amour, les premières poésies de Sully Prudhomme et celles de Vigny serviraient le mieux mon dessein. Je me donnais la peine de rédiger cette liste en l'accompagnant d'un commentaire tentateur, où j'indiquais de mon mieux la nuance de délicatesse propre à chacun de ces écrivains. C'est la lettre que la pauvre enfant avait gardée et dont les magistrats ont dit qu'elle correspondait à un commencement de cours. Ah, l'étrange cours, et si différente de la vulgaire ambition de mariage que ces grossiers esprits m'ont sottement reproché. Quand je n'aurai pas, pour refuser de me défendre, une raison d'orgueil que je vous dirai à la fin de ce mémoire, je me tairai par dégoût de ces basses intelligences, dont pas une ne saurait même concevoir une action dictée par de pures idées. Qu'on vous donne à moi pour juge, mon cher maître, vous et les autres princes de la pensée moderne. Alors je pourrais parler, comme je vous parle maintenant. Mais vous savez, vous, que j'étais fatalement déterminé à cette heure décisive, comme à celle où je vous écris. Et cette société de mensonges aime mieux vivre en dehors de la science, de cette science que je servais même alors, uniquement.
On voit donc à ce moment du livre, en quoi Adrien Sixte et Robert Grélou sont des deux côtés de cette opposition que j'avais posée un peu en introduction, c'est-à-dire, on voyait d'un côté Adrien Sixte tout entier préoccupé de l'acte d'écrire et considérant comme secondaire, donc, le donné à lire. Et on voit ici le disciple tout entier du côté du donné à lire à quelqu'un, plutôt que préoccupé de l'écrire. Et le projet en question, donc, prend une forme dont l'aspect de réduction par rapport aux créations psychologiques secondaires s'exprime donc dans un court passage que tu lis.
Je regardais les feuilles des arbres s'ouvrir au soleil. Je me rappelais les lois connues de la respiration végétale et comment, par une simple modification de lumière, la vie de la plante peut être changée. De même, l'on devait pouvoir, à son gré, diriger la vie de l'âme si l'on en connaissait exactement les lois. J'avais déjà réussi à créer un commencement de passion dans l'âme d'une jeune fille séparée de moi par des abîmes. Quel procédé nouveau et appliqué avec une rigueur ingénieuse me permettrait d'accroître l'intensité de cette passion? J'oubliais la transparence du ciel, la fraîcheur des bois, la majesté des volcans, le vaste paysage déployé autour de moi, pour ne plus voir que des formules d'algèbre morale.
Donc, ce projet fait de Robert Gresloup de séduire scientifiquement une jeune fille par un programme de lecture. En même temps, il consigne, pour probablement la plus grande gloire de la science, les phases de cette expérience scientifique sur une jeune fille dans son journal. L'expérience va donc réussir pleinement pour des raisons dans lesquelles la science du disciple a peut-être peu de place et peu de part. Et à la suite d'une déclaration, la jeune fille va prendre la fuite et décider d'épouser un ami de son frère. Mais alors donc, je vais vite, seconde crise, Gresloup se découvre lui-même amoureux et écrit des lettres. Troisième crise, Charlotte revient pour soigner son frère malade. Gresloup alors lui écrit une lettre d'adieu dans laquelle il annonce son suicide pour minuit. Elle le rejoint, se donne à lui. Ils se suicideront ensemble à l'aube. Mais à l'aube, lui n'a plus envie de se suicider. Et elle le quitte en le traitant de lâche. Ce qui nous conduit à la conclusion. Charlotte découvre le journal de Gresloup, où l'ensemble de cette histoire est donc consigné sous la forme d'une expérience scientifique, et découvrant ce journal, se suicide avec le poison que Robert Gresloup avait acheté, non sans avoir tout écrit à son frère, le comte André. Gresloup est donc accusé de meurtre, et devant le comte André, il se laisse accuser, et fait donc en même temps tout savoir à Adrien Sixte. Et donc on arrive au dernier acte. Adrien Sixte, cette lecture faite, se sent envahir par un sentiment de responsabilité. Il passe lui-même par une série de crises par rapport à son œuvre, par rapport à l'état d'esprit dans lequel cette affaire le plonge, et son incapacité de conseiller son disciple. Finalement, Adrien Sixte écrit au comte André et se rend sur place. La lettre de Sixte déclenche parallèlement, et toujours selon la même science, une série de crises chez le comte André, qui va donc témoigner pour disculper Gresloup, mais qui abattra Gresloup aussitôt que celui-ci sera libéré. Et le roman va s'achever sur une dernière crise du philosophe, donc vous voyez cet ensemble de crises chez les uns et chez les autres, donc sur une dernière crise du philosophe qui va participer aux prières et génuflexions de la mère de Robert Gresloup, et donc c'est cette conclusion-là que tu nous lis.
Durant la nuit qui suivit cette scène tragique, les admirateurs de la psychologie de Dieu, de la théorie des passions et de l'anatomie de la volonté eussent été bien étonnés s'ils avaient pu voir ce qui se passait dans la chambre numéro 3 de l'hôtel du commerce et lire dans la pensée de leur implacable et puissant maître. Au pied du lit où reposait un mort, le front bandé, se tenait agenouillée la mère de Robert Gresloup. Le grand négateur, assis sur une chaise, regardait cette femme prier et ce mort qui avait été son disciple dormir du sommeil dont dormait aussi Charlotte de Jussas. Et pour la première fois, sentant sa pensée impuissante à le soutenir, cet analyste presque inhumain à force de logique s'humiliait, s'inclinait, s'abîmait devant le mystère impénétrable de la destinée. Les mots de la seule oraison qu'il se rappela de sa lointaine enfance, « Notre Père qui êtes aux cieux », lui revenaient au cœur. Certes, il ne les prononçait pas. Peut-être ne le prononcerait-il jamais. Mais s'il existe ce Père céleste, vers lequel grands et petits se tournent aux heures affreuses comme vers le seul recours, n'est-ce pas la plus touchante des prières que ce besoin de prier? Et si ce Père céleste n'existait pas, aurions-nous cette faim et cette soif de lui dans ces heures-là? Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. À cette minute même, et grâce à cette lucidité de pensée qui accompagne les savants dans toutes les crises, Adrien Sixte se rappela cette phrase admirable de Pascal dans son mystère de Jésus. Et quand la mère se releva, elle put le voir qui pleurait.
Voilà, là-dessus s'achève le disciple de Paul Bourget. Il y a encore un certain nombre de choses à dire, je ne sais pas. Cette conclusion fait partie des éléments célèbres du livre qui s'achève sur le mystère de Jésus. Et on voit bien aussi en quoi ça fait écho à la vie de Jésus de Renan. Et donc s'achève finalement sur cette idée de cette distance que je posais au début entre l'acte d'écrire et le fait que ce livre arrive à quelqu'un et est donné à lire à quelqu'un. Autant chacun peut rendre compte de ce qu'il écrit, autant personne ne peut rendre compte de ce qui arrive quand on écrit. Et donc effectivement personne, c'est-à-dire ici donc la figure, seule la figure de Dieu le Père arrive à inscrire entre l'écrire et le donner à lire, un programme de lecture, et qui n'est aux forces de personne de vouloir penser sans défaillir, sans tomber à genoux, la différence marquée là. Et de cette conclusion-là, donc, va se développer, enfin, sur son fond, va se développer une première affaire que je ne me propose pas d'évoquer devant vous, simplement en disant qu'elle a eu lieu, à savoir que ce livre a donné lieu à une polémique publique dans des journaux, et en particulier une polémique entre Anatole France et Ferdinand Brunetière. Ferdinand Brunetière saisissant l'occasion de la parution de ce livre pour souligner la notion de responsabilité de l'écrivain et de rappeler aux écrivains la responsabilité qu'ils prennent à partir du moment où ils écrivent sur en particulier les questions de religion, par rapport aux gens à qui cela est donné à lire. C'est-à-dire, donc, Ferdinand Brunetière va plaider pour une réserve de l'écrivain, une interdiction de blasphème ou d'incrédulité sur ce thème, en disant qu'il n'est à la puissance de personne de se mettre à la hauteur de cette différence entre ce qu'on a écrit et ce qui est reçu, et que chacun doit trembler, et que donc les écrivains doivent se mettre dans une prudente réserve dès qu'ils abordent les croyances de leurs contemporains. Et Anatole France, maintenant, va répondre au nom de la liberté de la pensée et en faisant des assimilations de l'ordre qu'il n'est pas de la responsabilité de l'écrivain de savoir ce que les lecteurs font de ce qu'il écrit, pas plus que celui qui a inventé la nitroglycérine n'est responsable de ceux qui jettent des bombes, et donc pour réaffirmer donc la liberté de d'écrire. Sans prétendre justement assumer la question de ce qui conduit au programme de lecture à quelqu'un. C'est une polémique qui a des échos au-delà même donc des personnages que je viens de citer, c'est-à-dire les revues scientifiques de l'époque s'en mêlent, et on en trouve trace jusqu'en Russie, puisque Tchekhov lui-même intervient sur cette question, avec le sentiment que, bon, on a le moment où en littérature, en Russie, le naturalisme, la science, est à même de renouveler l'univers de la pensée en Russie contre une littérature affadie. Et donc, le médecin Tchekhov va prendre la même position, par exemple, qu'Anatole France. Donc, une espèce de débat, donc, simplement, je voulais indiquer par là que c'est un débat, en plus, tout à fait européen. Cette première affaire qui simplement prend prétexte de la conclusion de cet ouvrage et qui fait donc partie malgré tout de ce que j'essayais de dire, recommander cet événement de lecture qui a lieu là, à savoir que ce qui a été retenu et ce qui peut être recommandé, c'est ce livre qui a réussi à écrire cette question dans une vaste polémique qui a occupé tous les esprits du temps. Ce premier bruit cache un autre bruit et il y a une autre affaire à propos du disciple et qui peut-être donne la vraie raison, en tout cas c'est l'hypothèse que je présente, de ce deuxième bruit, cette discussion sur la liberté d'écrire et la liberté de donner à lire. Cet autre bruit, cette autre affaire est l'affaire de la préface de ce livre, à savoir que avant même que le livre soit paru en librairie, la préface avait paru sous forme de bonne feuille. Ça fait aussi partie des éléments détachables de ce texte. On peut dire aussi, et on a dit, que Paul Bourget était l'auteur, non pas du disciple, mais l'auteur de la retentissante préface du disciple. Donc là, on a un élément à nouveau séparable et qu'il faut essayer de saisir.
« Ah, un jeune homme, c'est à toi que je veux dédier ce livre, jeune homme de mon pays. À toi que je connais si bien, quoique je ne sache de toi ni ta ville natale, ni ton nom, ni tes parents, ni ta fortune, ni tes ambitions. Rien, sinon que tu as plus de 18 ans et moins de 25, et que tu vas, cherchant dans nos volumes, à nous, tes aînés, des réponses aux questions qui te tourmentent. Et des réponses ainsi rencontrées dans ces volumes dépend un peu de ta vie morale, un peu de ton âme. Et ta vie morale, c'est la vie morale de la France. Ton âme, c'est son âme. Dans 20 ans d'ici, toi et tes frères, vous aurez en main la fortune de cette vieille patrie, notre mère commune. Vous serez cette patrie elle-même. Qu'auras-tu recueilli? Qu'aurez-vous recueilli dans nos ouvrages? Pensant à cela, il n'est pas d'honnête homme de lettres, si chétif soit-il, qui ne doive trembler de responsabilité. Tu trouveras dans le disciple l'étude d'une de ces responsabilités-là. Puisses-tu y acquérir une preuve que l'ami qui t'écrit ces lignes possède, à défaut d'autres mérites, celui de croire profondément au sérieux de son art? Puisses-tu trouver dans ces lignes même la preuve qu'il pense à toi, anxieusement? Oui, il pense à toi depuis les jours où tu commençais d'apprendre à lire, alors que nous autres, qui marchons aujourd'hui vers notre 40e année, nous griffonnions nos premiers vers et notre première page de prose au bruit du canon qui grondait sur Paris. Dans nos chambrées d'écoliers, on n'était pas gais à cette époque. Les plus âgés d'entre nous venaient de partir pour la guerre, et nous qui devions rester au collège, du fond de nos classes à demi désertes, nous sentions peser sur nous le grand devoir du relèvement de la patrie. Nous t'évoquions souvent alors, dans cette fatale année 1871, jeunes Français de maintenant, nous tous qui voulions vouer notre effort aux lettres. Cette aurore de demain, nous la voulions aussi rayonnante que notre aurore à nous était mélancolique et embrumée d'une vapeur de sang. Nous souhaitions mériter d'être aimés par vous, nos cadets nés de la veille, en vous laissant de quoi valoir mieux que nous ne valions nous-mêmes. Nous nous disions que notre œuvre à nous était de vous refaire, à vous, une France nouvelle, par notre action privée et publique, par nos actes et par nos paroles, par notre ferveur et par notre exemple, une France rachetée de la défaite, une France reconstruite dans sa vie extérieure et dans sa vie intérieure. Tout jeunes que nous fussions alors, nous savions, pour l'avoir appris dans nos maîtres, et ce fut leur meilleur enseignement, que les triomphes et les défaites du dehors traduisent les qualités et les insuffisances du dedans. Nous savions que la résurrection de l'Allemagne au début du siècle a été avant tout une œuvre d'âme. Et nous nous rendions compte que l'âme française était bien la grande blessée de 1870, celle qu'il fallait aider, penser, guérir. De cette génération dont je suis, et que soulevait ce noble espoir de refaire la France, je ne peux pas dire qu'elle ait réussi. Ce que je sais, c'est qu'elle a beaucoup travaillé, oui, beaucoup. Sans trop de méthode, hélas, mais avec une application continue et qui me touche, quand je songe au peu qu'ont fait pour elle les hommes au pouvoir, combien nous avons tous été abandonnés à nous-mêmes, l'indifférence où nous ont tenus les malheureux qui dirigeaient les affaires, et à qui jamais l'idée n'est venue de nous encourager, de nous appuyer, de nous diriger. Elle a vu d'ignobles maîtres d'un jour proscrire au nom de la liberté ses plus chères croyances, des politiciens abominables jouer du suffrage universel comme d'un instrument de règne, et installer leur médiocrité menteuse dans les plus hautes places. Elle n'a pas de victoire à son actif, cette génération des jeunes gens de la guerre, cela est vrai. Pourtant, jeune homme de 1889, ne la méprise pas. Sache rendre justice à tes aînés, par eux la France a vécu. Comment vivra-t-elle par toi? C'est la question qui tourmente à l'heure actuelle ceux de ses aînés qui ont gardé, malgré tout, la foi dans le relèvement du pays. Tu n'as plus, toi, pour te souvenir, la vision des cavaliers prussiens galopant victorieux entre les peupliers de ta terre natale. Et de l'horrible guerre civile, tu ne connais guère que la ruine pittoresque de la cour des comptes, où les arbres poussent leur végétation luxuriante parmi les pierres roussies qui prennent de poétiques allures de palais anciens, en attendant que cette trace aussi disparaisse. Que je voudrais savoir si tu penses comme nous. Tu quitterais tout gaiement pour aller là-bas si demain il le fallait. Mais ce n'est pas assez de savoir mourir. Es-tu décidé à savoir vivre? Quand tu te souviens de la Restauration et des luttes du romantisme, éprouves-tu la nostalgie de n'avoir pas, comme ceux d'Hernani, un grand drapeau littéraire à défendre? Quand tu lis des livres comme ceux que nous devons écrire, lorsqu'il nous faut peindre les coupables passions, souhaites-tu d'aimer mieux que n'ont aimé les auteurs de ces livres? As-tu de l'idéal, enfin, plus d'idéal que nous? De la foi, plus de foi que nous? De l'espérance, plus d'espérance que nous? Si c'est oui, donne-moi la main, et laisse-moi te dire merci. Si c'est non, il y a deux types de jeunes gens que je vois devant moi à l'heure présente, et qui sont devant toi aussi, comme de formes de tentation, également redoutables et funestes. L'un est cynique et volontiers jovial. Il a dès 20 ans fait le décompte de la vie, et sa religion tient dans un seul mot, jouir, qui se traduit par cet autre, réussir. Qu'il fasse de la politique ou des affaires, de la littérature ou de l'art, du sport ou de l'industrie, qu'il soit